Alors, ce dimanche de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu vient sur nous. Il n'arrive pas sur la pointe des pieds, le temps de la voix qui crie dans le désert est terminé. Il vient du ciel, un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Il apparaît comme une sorte de feu qui se partage en langues et qui se pose sur chacun. Et cette venue de l'Esprit marque d'une manière forte que pour les hommes, est venu le temps de nous aimer, le temps de comprendre un peu mieux les commandements de Jésus, le temps de comprendre et de vivre le monde autrement. Il nous inspire tous d'une manière différente, particulière, personnelle, et il donne à chacun des charismes propres. Notre union fait notre force et notre diversité fait notre richesse. Notre humanité nous impacte par notre individualité, le Saint-Esprit, malgré nos différences, fait l'unité. Alors ce matin, mes amis, laissons-nous simplement porter par ce souffle de vie. Laissons-le nous enseigner la parole d'espérance. Mais pour autant que nous devions fêter sa présence, comment parler de l'Esprit ? Comment saisir et comprendre ce souffle présent partout comme l'air ? Et comme lui, pourtant invisible et insaisissable. Dans la Bible, il nous est dit que c'est lui qui planait sur les eaux avant même que fût l'eau. C'est lui qui fit de cette matière terreuse ou animale, un être humain portant la responsabilité d'être le reflet et l'image de son Créateur. Tout cela, nous le savons bien, comme nous savons que Jésus nous a promis un accompagnateur sûr, un consolateur, et bien sûr, c'est ce même esprit, ce souffle de Dieu auquel nous avons affaire aujourd'hui. Et encore une fois, on vient de réentendre le récit de cette vigoureuse manifestation de l'esprit lors de la tempête de Pentecôte. Aussi, pour nous familiariser avec l'Esprit Saint à l'honneur aujourd'hui, je vous proposerai de regarder de près trois vérités sur lesquelles on peut se reposer, concernant donc ce mystère que reste l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est Dieu, l'Esprit Saint vivifie et dynamise le croyant, la lecture des Écritures, et l'Esprit Saint inspire et guide nos vies, nos décisions, nos pensées, nos actions. Mais avant de voir donc ce qu'il fait, comment il agit en nous et pour nous, et dans notre monde, essayons de comprendre ce qu'il est. Et la manière la plus simple de le dire et de l'affirmer, c'est en disant que l'Esprit Saint est Dieu. Il est parfois bon de le rappeler, parce qu'avec la notion de Trinité dans le christianisme, chez beaucoup de croyants et même parfois des catholiques ou des protestants bontins, les orthodoxes s'en sortent mieux avec l'Esprit Saint, je pense. La tradition orthodoxe a vraiment réfléchi la chose. Mais nous, on voit bien ce que c'est en général que le Père, on imagine un vague barbu dans les nuages quelque part en train de prendre des notes, on voit bien le Fils, un barbu aux sandales qui marchait il y a 2000 ans et qui racontait des paraboles, qui guérissait les malades et tout ça, mais dès lors qu'on parle de l'Esprit, pour l'imaginer, pour se le représenter, on a beaucoup de mal à avancer sur cette idée-là. Et vous pouvez demander d'ailleurs à n'importe qui, même au sortir de l'Église, de vous parler de l'Esprit Saint. Et il va être bien embêté, probablement, pour le faire. Pour beaucoup, en tout cas, ça reste un mystère. Or, depuis ce jour de la fête de Pentecôte, qui met en scène de manière spectaculaire cette introduction, on va dire, de cette irruption de ce Dieu Esprit dans notre histoire, dans notre vie, eh bien, nous vivons de cette présence, sans même souvent en être conscients, comme l'air que nous respirons sans y penser nous fait vivre, eh bien nous vivons de cet esprit de Pentecôte. Un jour, une femme samaritaine interroge Jésus sur l'endroit idéal pour adorer Dieu. Est-ce que c'était en Samarie, sur le mont Garizim? Est-ce que c'était à Jérusalem, au temple, etc.? Et Jésus lui répond, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Personnellement, si je devais garder juste une phrase de tout le Nouveau Testament, et peut-être même de toute la Bible, je garderais celle-là, qui nous vient de Jésus. Dieu est esprit. Souffle, vent, quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne capture pas, qu'on ne peut pas enfermer dans quelque boîte que ce soit. Le vent, le souffle, en fait, on ne le voit même pas. On ne peut qu'en constater son passage, la manifestation de ses effets qu'il provoque dans les feuilles d'un arbre, par exemple, ou voilà, à Roland-Garros, vous allez voir la poussière s'élever comme ça dès lors qu'il y a un passage du vent dans le cours, ou vous pouvez voir ça dans une voile d'un bateau qui se gonfle complètement. On voit bien, c'est le constat qu'on peut faire, c'est pas le vent qu'on voit, ce sont ses effets, les effets qu'il inspire. Et en plus, pour comprendre que Dieu est esprit, ça nous libère bien sûr de la tentation. Quand on comprend ça, Dieu est souffle, ça nous libère complètement de la faiblesse et de la tentation de nous l'imaginer, de nous le représenter, d'en faire une idole quelque part. Parce que c'est impossible, essayer de représenter le vent. Alors, le Saint-Esprit, on a essayé de le représenter. Chez les protestants, on a tenté avec une... dans la croix huguenote avec une petite colombe. Ok, je ne suis pas sûr que ça parle vraiment à notre monde d'aujourd'hui. On a quand même tenté ça. Oui, l'esprit est ce qui donne la vie, ce qui vivifie notre existence, qui ensemence, qui dynamise nos pensées, nos élans et nos actions. Et c'est là notre deuxième vérité à retenir ce matin. En ce sens, c'est bien l'Esprit qui donne vie en nous à l'Écriture, qui, sans l'action de l'Esprit en nous, reste une lettre morte. Ce sont des belles histoires, comme tout le reste de la Bible, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ou pas encore. Il va falloir que l'Esprit Saint travaille cette parole de la Bible qu'on entend pour en faire parole de Dieu pour chacun. Et c'est pourquoi, avant la lecture de nos textes, en général, le dimanche, nous prions pour qu'à sa lecture, pour que la lecture de la Bible, et par l'action de l'Esprit en nous, justement, elle se fasse, elle devienne parole de Dieu, qu'elle soit reçue en nous comme une parole de Dieu. Et bien sûr, chacun, dans une courte prière, peut demander à l'Esprit Saint d'éclairer sa lecture personnelle de la Bible, à la maison, au parc, où vous voudrez, et pour la faire parler aujourd'hui, justement, au-delà des mots qui sont écrits, au-delà de ces mots d'autrefois que d'autres ont posés. Leur manière de comprendre Dieu il y a 2000 ans est certes intéressante, mais elle a finalement peu de choses à me dire si Dieu ne traduit pas ses paroles et ses pensées dans mon propre cœur. C'est ce que fait l'Esprit Saint. Et c'est seulement comme ça, donc, qu'une lecture ou même qu'une prédication sous son action vient prendre sens dans le cœur du croyant qui l'entend ou qui la lit. C'est ce qui nous amène à notre troisième vérité ce matin, le Saint-Esprit est cette intelligence positive qui inspire l'homme dans ses choix, dans ses décisions. Ce ne sont pas les paroles et les actions des prophètes, des apôtres après eux, ou même les enseignements de Jésus qui nous transforment et nous sanctifient dans le sens de nous rendre meilleurs. Mais c'est l'action de l'Esprit en nous qui fera de ces paroles du passé que nous entendons le terreau favorable, le terreau parfait pour discerner et recevoir une direction dans laquelle nous pouvons nous confier aujourd'hui, dans laquelle nous pouvons nous engager. Autrement dit, l'homme est moins seul dans ses décisions lorsqu'il écoute et qu'il fait confiance à l'Esprit que lorsqu'il ne décide qu'à partir de sa propre sagesse. Alors entendons-nous bien, l'athée ne fera pas systématiquement, il ne prendra pas systématiquement la mauvaise direction, ou il ne fera pas systématiquement les mauvais choix, mais il sera toujours seul pour les faire. Et c'est peut-être là juste la différence. Pas grande différence, me direz-vous, Eh bien, pourtant, une décision inspirée par l'Esprit est toujours prise avec plus d'assurance, plus d'audace, de confiance et de paix qu'un simple choix qui est fait sans prendre soin d'écouter les conseils de Dieu. Alors, comme le dit Jésus lui-même à ses disciples, l'Esprit que le Père enverra est un conseiller qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est même celui qui grave ces vérités dans notre cœur, c'est-à-dire qu'en mûrissant, j'ai moins besoin de la loi extérieure, parce qu'elle est acquise finalement par l'Esprit dans mes pensées, dans mon être tout entier, dans mon âme, dans mes actes, dans mes actions. La parole s'est incarnée, c'était une promesse de l'Ancien Testament. Je viendrai graver la loi dans vos cœurs. Être inspiré par l'Esprit concrètement, ça peut être bien utile pour trouver les bons mots, lorsque par exemple un enfant nous interroge sur notre foi, sur Dieu, sur l'Église, sur la mort, le sexe, que sais-je. On a quelquefois vraiment besoin d'inspiration dans ces moments-là. Mais pas seulement l'enfant nous interroge, mais aussi n'importe qui du monde nous interroge sur notre foi et la manière dont on peut en rendre compte. L'Esprit Saint, dans ces moments-là, peut nous donner les mots justes et on peut lui faire confiance. Et nous-mêmes, lorsque nous venons ici partager ces moments et mettre notre cœur à l'écoute d'une parole qui nous parle, ne venons-nous pas d'abord chercher, écouter, rencontrer l'Esprit Saint qui donne à chacun en particulier du sens à cette parole générale que nous partageons tous ensemble, chacun la reçoit de manière particulière. C'est vraiment ça le travail de l'Esprit en nous. Vous savez qu'on place toujours dans le culte la louange au commencement, vous l'avez entendu encore ce matin, au commencement de nos cultes, de nos rencontres. Pourquoi, selon vous? Eh bien, parce que la louange et la reconnaissance ouvrent en nous des portes à l'Esprit du Dieu vivant. C'est le meilleur moyen pour l'Esprit d'entrer en nous, c'est d'avoir un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude, d'être dans la louange permanente, l'Esprit Saint vient prendre alors toute la place. Dans cette histoire de Pentecôte, c'est bien ce que nous lisons, regardez au verset 47, « Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. » Quelle belle conséquence de la Pentecôte à emporter avec nous comme autant d'encouragement à la vie. Ils louaient Dieu. Avec à la fois ces notions d'intimité et de reconnaissance, avec un regard ouvert sur Dieu, le peuple tout entier leur était favorable. Alors voilà qui nous parle des conséquences au dehors de l'Église. Ce sont les conséquences au dehors de ce qui s'est passé au dedans. Un impact donc réel, reconnu dans la cité. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Et donc ça, c'est un effet collatéral des conséquences. Il y en a aussi à l'intérieur, dans l'Église. Bref, l'Esprit Saint provoque un épanouissement à tout niveau. Alors mes amis, que ce temps de Pentecôte soit pour chacun, chacune, l'occasion, peut-être renouvelée, d'inviter l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, à prendre toujours un peu plus de place dans son existence. Terminons ce moment par un moment de prière, si vous voulez bien. Prions pour le monde et pour son Église. Ô notre Dieu, envoie ton Esprit sur le monde tout à nouveau. Qu'il souffle en tempête sur notre terre, qu'il chasse la haine incrustée au cœur des peuples comme un ver, qu'il détruise les indifférences mortelles, qu'il enseigne la vanité de la puissance dominatrice, qu'il donne à tout homme le désir et le courage d'une fraternité véritable, qu'il relève les bras fatigués de tant d'efforts sans résultat, qu'il ranime l'espérance en un avenir meilleur. Notre Dieu, envoie ton Esprit sur l'Église, que sa force lui procure un élan nouveau Donne-lui ton esprit pour que cessent de l'habiter les silences honteux, les bavardages inutiles, les certitudes sectaires ou les actions démagogiques, pour qu'elle se mette avec une vigueur renouvelée au service des hommes. Avec ton esprit, donne-lui la passion de la vérité, la soif de l'amour, le goût de la bonté. Garde sa curiosité toujours vive et son esprit toujours ouvert. Avec ton esprit, rends-la audacieuse et toujours plus créative dans son annonce de l'Évangile. Merci pour ta parole. Merci pour ton action en nous et parmi nous. Merci pour ton esprit de vie. Amen.